Curiosité, la quotidienne actu locale de Prune, du lundi au vendredi, de 17h30 à 18h30.
Bonsoir à tous, nous sommes lundi 11 décembre 2023, il est 17h30 et vous êtes sur Prune 92 FM. Bienvenue dans Curiosité, votre émission quotidienne d'actualité locale. Je m'appelle Martin, c'est toujours un plaisir de vous retrouver à l'antenne chaque lundi avec mon équipe pour une heure de programme sur l'actualité de Nantes et de ses environs. Aujourd'hui, pour le 11 décembre, nous écouterons d'abord l'interview de Yelena qui a fait une interview aux rencontres transmusicales, Festival international de musique actuelle qui s'est déroulé à Rennes de mercredi à dimanche dernier et elle a eu l'occasion de rencontrer la DJ-compositrice Anna Ouassim. Nous continuerons après sur la pause cadeau avec Esteban qui vous gâte comme chaque lundi. Nous continuerons après avec le portrait de vie. Le portrait de vie, ce sera directement Enzo qui sera présent également avec Sarah Gautré, intermittente du spectacle qui fait du clown dans le cadre du Rire Médecin. Elle intervient plusieurs jours par mois. Ça sera du coup tout à l'heure. Et pour finir, nous aurons la chronique avec Victor qui vous présente chaque lundi une chronique. C'est dans Curiosité et c'est maintenant.
Curiosité, le Zoom Actu.
Alors nous sommes avec la DJ, chanteuse et percussionniste Anna Ouassim aux Libertés pour les trans musicales. Et pour les trans, elle entame un vrai marathon en jouant 5 soirs de suite au théâtre à l'air libre avec un duo chant, percussion, clavier. Elle a collaboré avec de nombreux artistes, notamment en tant que chanteuse et percussionniste avec Acide Arabe, mais aussi Léonie Pernet et plus récemment Flavien Berger sur son album Contrebande 02. Et elle sort son premier album, La Vie de Star, en 2024. Bonjour Anna Ouassim, ravie de vous accueillir au micro de Prune.
Bonjour Prune, bonjour Yelena, ravie également.
Alors vous avez commencé des trans mercredi déjà, comment ça va et qu'est-ce que ça fait de jouer au trans musical 5 soirs de suite?
Alors j'ai commencé il y a deux jours, ça va très bien, c'est un peu éprouvant. On a fait des premières parties où on arrive, on joue devant un public debout, des jauges de plus de 1000 personnes, et ensuite on s'en va vers une autre ville. Là c'est entre la résidence et le show. Et je découvre les trans où toute la ville est un peu en effervescence, où c'est très tentant de le soir ressortir encore, mais il ne faut pas le faire. Et la salle du théâtre de l'air libre où Yamé fait son concert dont on fait la première partie, 5 soirs de suite, est particulièrement agréable. C'est une salle assise et c'est ça l'intérêt des festivals, c'est d'avoir différentes modalités de rencontre des gens et différents formats de salles. On n'a pas le même eye contact quand les gens sont assis, c'est pas la même attention quand les gens sont en festival et qui font se suivre les concerts, etc. Donc c'est un peu tôt pour donner des impressions, mais c'est assez positif et c'est un peu effervescent.
Pendant ces 5 soirs au trans, vous présentez notamment votre premier album, La Vie de Star, qui va apparaître en début 2024, février 2024. Quel a été le déclic pour vous de vous lancer dans cet album? J'ai lu que la genèse de ce projet remonte à 2013.
Oui. C'est une rencontre avec Arthur Péchaud, qui est le directeur de Pan Européenne, qui est un ami avec qui on écoute de la country et de la musique jamaïcaine depuis plusieurs années. Et un jour, il a voulu faire de l'archéologie dans mon ordinateur. Il a fait la même chose avec Flavien, quelques années auparavant. Et c'était des chansons. Moi, je fais des chansons depuis que j'ai un ordinateur, depuis 2010. Et je bricole des choses avec différents logiciels. Et Arthur a mis ça en place, m'a dit bon, viens, on le fait. Et du coup, c'est comme beaucoup de belles histoires, une impulsion d'amitié où on voulait juste faire de la musique dans le studio, en legging avec des chaussons. Puis finalement, c'est le moment de sortir du studio. Et la jeunesse de l'album, c'est ça. C'est une histoire d'amitié où on s'est dit faisons-le. Il me semble que c'est des chansons. Et moi, j'avais un peu peur que personne ne comprenne ce que j'essaye de faire, à part moi. Et qu'Arthur comprenne déjà, ça a fait un starter. Et voilà.
Alors, moi, j'avais lu que vous aviez travaillé seul sur cet album. Ouais. Comment ça s'est concrétisé, vous, dans la création de votre album? Est-ce que vous êtes plus à l'aise d'être seul pour créer?
Oui, oui, pour faire toutes les étapes. Aujourd'hui, vous pouvez faire toutes les étapes, même en étant sans formation musicale de base. Moi, je suis autodidacte. Du coup, vous pouvez reconstituer une initiation musicale avec YouTube. Si vous buvez beaucoup de café, vous pouvez faire une super matinée avec des tutoriels de 12 heures de tutoriels en accéléré, avec l'option x1,5 sur la vitesse. Vous allez en sortir dans un état cognitif particulier, mais vous aurez appris beaucoup de choses. Du coup, je l'ai fait en entier, l'album. J'ai toujours été sur des logiciels de musique depuis toujours. Je me suis initiée à Ableton et j'ai composé, écrit, fait les paroles, etc. Arthur m'a vraiment aidée pour la mise en place des choses, les tracklists, pour sortir de mes vortex, etc. Donc c'est pas vraiment un duo, mais c'est une guidance un peu musicale et c'est une sécurisation d'être dans ce label. Voilà, ça part d'une histoire d'amitié et c'est vraiment tout qui a été fait par moi. Et sur scène, c'est une autre fille qui est avec moi. C'est cool que ce soit une fille. Dans la mécanique des choses, il n'y a pas de mec, c'est qu'elle et moi, elle fait des arrangements et on fait encore évoluer le live. Et voilà.
Qu'est-ce que ça change du coup que ce soit une fille pour vous
C'est super, moi je viens d'un milieu, à la base je jouais dans les mariages marocains qui sont non mixtes. Donc, par la force des choses, c'est des groupes de femmes avec lesquelles je suis rentrée dans la musique. Donc, quand on chante à 7 et que vous faites les percussions et que vous envoyez sans micro presque des choses très énergiques, c'est pas comme quand on est sur scène avec tout qui est amplifié et l'intention et la lumière, etc. C'est plus de l'orfèvrerie que de la performance. Et j'aime bien être accompagnée à nouveau d'une fille, depuis Léonie Pernet, ça n'était pas arrivé, pour faire justement la mécanique, pas juste le chant, la danse, etc. Caroline, c'est quelqu'un qui rentre dans les sessions comme moi, qui est névrosée avec les data comme moi. On va dans l'abscisse, dans l'ordonnée, on fait des filtres et voilà. Et on est très au bord de l'autisme avec ça. Et c'est très plaisant, c'est très stimulant. Donc de retrouver cette énergie sur scène et d'être deux filles, c'est peut-être un biais cognitif de ma part, mais c'est pas désagréable.
Votre album, il y a à la fois de l'électro, mais vous chantez aussi en dialecte d'Aridja, un dialecte marocain. J'ai l'impression que votre album, il est aussi à l'image de votre parcours. Vous avez commencé, donc, comme vous le disiez, jeune, par des percussions traditionnelles dans les mariages marocains. Vous vous êtes fait connaître sur les scènes européennes grâce à vos mix. Comment vous en êtes arrivé à l'électro ?
Beaucoup de solitude avec un ordinateur. Entre 2006 et 2010, on a eu les premiers ordis avec le peer-to-peer, etc. Et quand on tapait, c'était pas comme YouTube, vous avez entendu parler d'un musicien et vous allez taper dans le peer-to-peer le nom du musicien, il va y avoir, par exemple, je sais pas, moi je connaissais pas trop la Synthwave, j'ai tapé Duran Duran, discographie. Et du coup, on peut découvrir les choses par strate entière et pas juste avec quelqu'un qui nous fait découvrir. Du coup, j'ai bingé pas mal de choses grâce à Internet. Et ça m'a fait découvrir des autres sonorités. Moi, je grandis avec le folklore d'une part et la pop qui est à la télé et à la radio de l'autre. Donc, des musiques par défaut. Donc celle de mon milieu d'origine et celle qui est dans les médias et dans l'industrie musicale, etc. Et de pouvoir découvrir autrement la musique, ça m'a fait pouvoir la faire se fusionner différemment parce que j'avais aucun complexe de groupe de gens qui m'auraient présenté des choses enfermées dans des carcans. Mes phrases sont longues, mais elles sont structurées. Et du coup, à la fin, j'ai commencé à sortir. Quand j'ai quitté le lycée, je suis allée à Reims, faire ma licence de lettres, puis je suis allée à Paris. Et entre Reims et Paris, il y a un point commun qui est la vie scénique, nocturne, le clubbing. Et du coup, j'ai découvert là le son que j'écoutais dans mes oreilles, en grand format, électronique donc. Et du coup, j'ai ressenti la même chose que quand on est jeune et qu'on fait nos premiers mariages, ou quand vous êtes petit et que votre mère vous amène à la fête de la musique et que vous entendez des tam-tams ou un truc fort, vous avez votre diaphragme qui se soulève. Comme quand on rentre dans une boîte de nuit. Et du coup, j'ai reconnu cette sensation qu'il y a dans le mariage, qu'il y a dans les clubs, etc., et dans certaines musiques. Et du coup, j'ai eu envie de ramener cet enthousiasme-là qui a... Il me semblait que c'était une cérémonie dans les deux cas. Les mariages et puis aussi le fait que les gens se réunissent quand ils ont quitté leur milieu d'origine et leur strate d'origine de leur ville et qu'ils viennent à Paris. Ils recréent une famille, ils recréent des cérémonies de musique, des cérémonies de danse. Donc voilà. C'est un trait entre la société traditionnelle et la société moderne dans la façon de faire la fête et de se réunir que j'ai retrouvé d'une façon concrète et aussi d'une façon allégorique dans la musique. Donc je mélangeais les choses entre elles de base et il y a des signatures rythmiques qui se répondent dans des technos un peu déstructurés comme la techno anglaise, UK, un peu two-step, qu'on peut facilement, plus que vous ne le croyez, faire fusionner avec certains folklores d'Algérie du Nord, de Gazba Chaoui, etc. Donc le mezouet tunisien, qui est un autre folklore, il se mélange bien avec les sonorités plus funky, etc. Et en vrai, tout se répondait d'une façon évidente dans ma tête. ça faisait presque de la synesthésie. C'est comme ça que j'ai mélangé les mondes.
Justement, vous l'avez évoqué, mais qu'est-ce que vous en retirez, vous, de votre expérience de percussionniste dans les mariages traditionnels? Cette expérience-là, elle est toujours présente dans votre manière de composer?
Oui, et c'est fondateur, et c'est surtout dans ma manière, dans mon rapport à l'altérité, dans ma manière d'apprendre, de m'insérer dans un groupe, etc. Et de toujours tout prendre du début. Une forme d'humilité, parce que j'étais un peu la bleusaille, en plus j'étais la percussionniste, donc c'est le moins... Il n'y a pas besoin de faire des grandes choses au niveau de l'intelligence d'exécution ou de la sensibilité ou de l'intention. C'est une performance presque d'être percussionniste. Soit vous faites bien votre roulement et c'est impressionnant, soit vous faites un pain et c'est comme sans Pierger. Enfin, c'est vraiment, il faut être dans une forme cognitive sharp, comme on dit en anglais. Donc j'ai retenu de cette expérience une base musicale intuitive, instinctive et un rapport à l'altérité et au groupe fonctionnel et jovial.
Vous êtes une artiste autodidacte. Vous avez appris à manier Ableton seule. Apprendre en autodidacte, c'est pas difficile?
Ça dépend de votre niveau de solitude. Ça dépend de votre niveau de névrose. Et ça dépend de votre niveau d'obsession pour le sujet que vous êtes en train de vouloir apprendre. On peut être autodidacte sur plein de choses. Quelqu'un qui veut se mettre dans un sport particulier... Au bout d'un moment, il va regarder ses performances, il va être vraiment très technique et ils vont se parler entre eux. C'est facile à partir du moment où on est obsédé. Et pareil, quand on est fan d'un personnage historique ou quelque chose, on ressent un réconfort à aller se former. Et c'est vraiment une question de s'initier soi-même, mais on a toujours besoin de cet effort, de ce socle de violence qu'on se fait. Et donc pour moi, c'est un mélange entre du travail et du réconfort. Je le fais parce que ça me nourrit et ça m'aide, et parce qu'il n'y a pas le choix.
Du coup, on peut dire que vous êtes névrosée, finalement? Non.
Oui, si, on l'est un peu tous. Si. Mais il faut rendre ses névroses fonctionnelles, il faut apprivoiser ses ambivalences, il faut essayer d'être dans quelque chose de... Parce qu'on est, toujours dans le développement personnel où tout le monde se parle de se discipliner, d'être plus performant, d'être plus... Moi, je parle juste d'apprendre à lire ses propres folies, et puis après, il me semble que la vie est belle.
Pour en revenir sur votre album, cet album, il parle d'échapper à son destin, de nager dans l'océan basket et de belles voitures. Et c'est ce qui se retranscrit sur la couverture de votre album, où vous êtes à l'intérieur d'une voiture face à la mer. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu la signification de cette pochette aussi?
C'est une pochette qu'on a réalisée avec Juliette Gély, qui reprend des éléments des chansons et qui reprend des souvenirs d'enfance. Avant qu'il y ait Ryanair et compagnie, on allait au Maroc en convoi de voiture, un utilitaire avec la mère et les enfants, le père, et les oncles, enfin les jeunes garçons, allaient en voiture, qui étaient en général des Golf TDI. Et je me rappelle d'une Golf TDI qui m'avait émue, parce que j'avais un oncle qui changeait souvent de voiture, et c'était mon tonton préféré. On a trouvé une Golf TDI pour la couverture, intérieur cuir et décapotable. J'étais trop contente. Du coup, on a fait la photo dedans. Et il y a, c'est un peu littéral, mais moi je suis quelqu'un de premier degré, de romantique, donc c'est très saturé, c'est très kitsch, je voulais que ce soit kitsch, il y a des fleurs en plastique, il y a des cadenas, il y a des petites décorations, tout ça c'est des éléments qu'on retrouve dans les paroles. Et je voulais qu'il y ait beaucoup de détails et que ce soit un peu comme une affiche de film, comme un truc très pop, comme des affiches très premier degré des années 90. Et du coup, il y a ce fait de regarder dans le rétroviseur, mais en même temps on ne sait pas si je regarde la vie de star ou si je regarde le rétroviseur, et on ne me voit pas. On voit juste des yeux et un personnage, une silhouette. Et c'était vraiment... Je voulais quelque chose d'abstrait, mais quand même d'accessible. Et de pas trop... Je veux pas trop distancier et encombrer mon propos. C'est des histoires d'amour, c'est des émotions, c'est du réconfort et c'est kitsch. Et il fallait juste qu'il y ait une belle lumière et une histoire.
Alors, j'avais lu dans un de vos posts Instagram que cet album, il parlait aussi d'être un zmagri. Un zmagri, ça veut dire un Marocain ou une Marocaine immigrée qui vient... en dehors de son pays. Est-ce que ça parle de vous aussi, cet album?
C'est un album, c'est de l'autofiction, comme dans Paul Auster de Moon Palace de Paul Auster. Je raconte des trucs qui me sont arrivés, mais des fois je change la forme, je change le contexte, etc. Et ça m'a réconfortée, et j'avais dans l'idée que peut-être ça peut réconforter quelqu'un d'autre de l'entendre, ou au moins lui faire dodeliner la tête, et ça me ferait plaisir. Être un zmagri, c'est quand on est au Maroc, on nous appelle les immigrés. Donc zmagri. Zmagri, Zmagria, avec un A à la fin, car je suis une fille. Et, quand c'est... Et du coup, c'est une autre ambivalence à apprivoiser. C'est une identité un peu lacunaire, mais c'est comme ça. Et encore, moi, j'ai de la chance au niveau brisure. Je parle ma langue maternelle, j'y retourne de temps en temps, je suis en lien avec ma famille. Mais même là, c'est très compliqué pour moi de pas être dans une sorte de schizophrénie et de pas surinvestir l'une ou l'autre de mes identités, parce que j'ai aussi une identité française, je grandis ici. Et du coup, être transmigré, c'est un sujet vis-à-vis duquel je veux de la consolation. Je fais de la musique que pour ça. Et il me semblait que c'était un sujet sur lequel on peut faire des chansons dansantes, faire des chansons tristes, faire des chansons littérales, faire des chansons allégoriques. Et c'est un sujet qui renferme plein de thématiques liées au secret, à la double vie, à des choses très légères comme à des sujets plus poignants. C'est des sujets liés à l'identité, liés à toute l'identité. Et par exemple, j'ai des amis, ils ont des thématiques qui reviennent dans leur musique. Flavien, c'est le temps. Et ben moi, je pense que ce serait le secret.
Justement, vous parlez de Flavien Berger. Vous avez collaboré avec lui et notamment sur son dernier album Contrebande Zéro. Et vous êtes d'ailleurs signé sur le même label très reconnu, Pan European Recording. Comment s'est passée cette collaboration avec Flavien Berger? Vous le connaissez depuis longtemps?
Oui, depuis longtemps, on se croise et on est plus amis depuis quelques années. Et on a fait toute une tournée ensemble. En fait, on parle beaucoup en ligne. On a la même sensibilité musicale. Il est un peu fou, du coup, comme moi, mais il s'en fait pas. Et c'est une des premières personnes que j'ai rencontrées, avec qui j'ai parlé de musique, avec qui il me semblait que c'était pas grave d'être fou, que c'était mieux d'être fou, qu'il fallait être obsédé par les choses, et que c'était ok de voir des symboles et des signes, et d'en créer dans sa vie, et les synchronicités, et de voir que les gens, c'est pas juste des gens, ils font de leur mieux, que tes parents c'est juste des gens, enfin vraiment, toutes les choses que j'étais habituée à voir, il m'a resensibilisée à ça parce qu'il a pas perdu le goût du beau, le goût du... Et moi j'ai eu un peu des moments dans ma vie up and down où j'ai dû effacer un peu, faire de la musique me paraissait désuet, etc. Et c'est grâce à des amis comme Flavien que j'ai reconnecté. C'est très facile de faire de la musique avec lui et il est très accessible, mais il est un peu... Il est un peu fou et hyper productif, donc ça complexe un peu quand on voit les chansons qu'il poste. Ça stimule, c'est le genre d'amitié, je crois qu'on dit inspirante.
Autre corde à votre arc, vous avez aussi composé la musique du documentaire Raqqa sur les traces des enfants de Daesh. Comment on s'attelle à la création de musique documentaire, notamment sur un sujet aussi dur que celui-là?
On commence par l'image. J'ai demandé à avoir quelques images. Parce que sinon, je vais m'imaginer, moi, les enfants de Raqqa, je vais partir sur des choses soit très littérales, très poignantes, soit trop à contre-pied, avec des petites choses en majeur et tout, et ça ne va pas marcher. Donc vraiment, se mettre complètement au service du sujet et de voir aussi le réalisateur, c'est son objet aussi, comment il voit les choses. Gros travail de groupe, et s'accrocher à l'image pour point de départ.
Alors, après l'album, on imagine la tournée, c'est ça, ce qui est prévu?
Peut-être, on a quelques dates, on imagine surtout un tout petit peu de repos. Et après, on va passer en format une heure, parce que pour l'instant, mon live fait 45 minutes. Et donc, on va faire une sortie officielle de l'album au Point Éphémère, le 28 février. Et il y aura des amis sur scène, et c'est avec Pan European toujours. Et là, on va présenter donc le gros live de une heure et quelques. Et je pense qu'à partir de là, on va, oui, tourner. On a déjà quelques petites dates cet été. On va essayer de tourner plus. Au plaisir de vous y recroiser.
Avec plaisir, en tout cas. On note la date, le 28 février, au Point Éphémère. Anna Wassim, merci d'avoir été au micro de Prune. Donc, je le rappelle, hein, vous jouez encore ce soir, demain et dimanche au théâtre à l'air libre. Et votre album La vie de star sort en février 2024. On peut d'ores et déjà écouter deux morceaux qui sont sortis et dont le titre Kamanja Ice, que l'on écoutera ce soir dans l'émission de Prune.
Merci beaucoup, Prune Radio.
Merci Yelena pour cette interview enregistrée à l'occasion des Transmusicales avec Anna Wassim. Vous êtes sur Curiosité et vous faites bien. Et je vous propose un peu de nostalgie tout de suite, enfin une nostalgie qui peut être même remise au goût du jour, car le saviez-vous que la discipline du breakdance fera son entrée au JO de Paris, une discipline qui a fait son entrée dans l'Hexagone, en partie grâce par une musique initiée par Keith Rogers, qui était un musicien new-yorkais, également animateur de radio à l'époque. et passionné par la musique de rue, il surfe sur la vague rap qui s'accompagne aussi d'une danse acrobatique, le breakdance, dans les années 80. Et il va rencontrer Morali et Belolo, qui étaient les producteurs de Village People, YMCA, à l'époque, et décide de lancer un groupe qui permettra de populariser le genre, notamment avec une musique popularisée en France, qui connaissait peu ce courant-là. C'est avec ce tube Street Dance du groupe Break Machine en 1983 que le breakdance fait son entrée dans l'Hexagone. Et c'est tout de suite dans Curiosité.
Vous êtes toujours dans Curiosité sur Prune, merci d'être à l'écoute. Vous avez écouté tout de suite un mouvement du coup sur la street dance. Vous n'étiez pas du tout sur le plateau, mais vous auriez vu Esteban, du coup Enzo, mais même Victor, qui était en train de bouger à fond sur le morceau. Tout de suite, ça sera... Et oui, parce qu'il reste plus que 14 jours avant Noël, sachez bien. Bah, évidemment, vous le savez, tous ceux qui ont du coup un calendrier de l'Avent, pour ceux qui ont de la chance d'en avoir un, c'est bientôt Noël, du coup. Donc maintenant, c'est Esteban, notre lutin, qui vous réserve une belle surprise dans la pause cadeau.
Ce soir, Prune te fait gagner 2 places pour la pièce de théâtre Cosmos de Maëlle Poésie, qui se jouera le 12 et 13 décembre au lieu unique. Dans les années 1960, en pleine guerre froide, un chercheur américain ambitionne pour la première fois d'envoyer des femmes dans l'espace. Les premiers tests montrent que leurs aptitudes sont égales ou nettement supérieures à celles des hommes. Cette information ne pouvant être divulguée en terre patriarcale, le programme est aussitôt abandonné. S'emparant de cet épisode de la conquête spatiale pour évoquer la manière dont les ambitions et les rêves peuvent façonner notre rapport à la réalité, Maël Poésie et l'auteur Kevin Case tissent des récits de vie où s'entremêlent les histoires de ces femmes qui ne seront jamais astronautes et celles des cinq artistes au plateau, comédiennes et circassiennes, venant de cultures et d'horizons différents. C'est une enquête sur notre rapport au temps, à l'espace, aux risques et aux limites que mène l'équipe de Cosmos. Donc pour ne pas rater cette pièce et pour tenter de gagner deux places, envoie-nous un emoji Galaxy sur l'Instagram de Prune. C'est tout pour la post-cadeau d'aujourd'hui. On se laisse avec la suite de l'émission, mais avant, le morceau Cosmic Girl du groupe anglais Jamiroquai. Bonne écoute.
Curiosité, l'actu local sur Prune, du lundi au vendredi, de 17h30 à 18h30.
Auditoriste, vous êtes toujours dans Curiosité, comme vous l'a dit le jingle, et il est désormais 18h. Merci d'être avec nous. Désormais, nous allons passer au portrait de vie. Nous avons la chance d'accueillir Sarah Gautré. Bienvenue.
Merci, bonsoir.
Bonsoir Sarah. Nous accueillons du coup Sarah. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'elle est intermittente du spectacle. Son prénom du coup, alias Tina Trompette.
Oui, je suis comédienne et comédienne clown à l'hôpital. Et c'est dans ce cadre-là, en pédiatrie, que j'ai effectivement un personnage qui s'appelle Tina Trompette.
Très bien. Alors, ça va être du coup Enzo qui va vous présenter et faire du coup l'interview. Je ne vais pas préciser davantage du coup des explications, mais voilà, Enzo va vous dire tout sur du coup en quoi consiste son métier, parce que du coup, elle est également du coup clown dans le cadre du Rire Médecin, et également pour elle va vous expliquer du coup ses causes, du coup quels sont les publics qui sont ciblés, et également différents projets. C'est tout de suite dans le portrait de vie.
On va commencer tout de suite sans jingle. Arrête de faire le clown, une phrase que vous avez peut-être déjà entendue au cours de votre enfance. Nous avons tendance à vouloir effacer la pitrerie, l'envie d'amusement de nos enfants pour en faire des êtres socialement acceptables. Pourtant, certains d'entre eux ne peuvent avoir ce privilège du rire, de l'amusement et de la légèreté. Vous reconnaîtrez que l'hôpital n'est pas un endroit où le rire tient une place singulière. Le temps y est long et nous nous sentons parfois comme condamnés entre les quatre murs de notre petite chambre, retenus par une maladie qui occupe toute notre énergie et notre esprit. Et lorsque l'on est enfant, c'est tout un imaginaire, toute une vision de l'apprentissage par l'amusement qui s'en trouve effacée. Pourtant, des femmes et des hommes se glissent parmi le personnel hospitalier pour y apporter du rire, de la couleur et de l'espoir. Des adultes ont décidé de retrouver et d'exploiter leur part de clown pour aller soigner l'ennui de ces enfants trop souvent retenus, de s'amuser. Clown en milieu hospitalier, un métier qui porte à rire dans les deux sens du terme, mais un métier essentiel parce qu'on soigne mieux un enfant heureux, telle est la devise de l'association Le Rire Médecin, fondée en 1991 par Caroline Simons. C'est aujourd'hui 135 comédiens clowns professionnels qui opèrent dans 19 hôpitaux en France, dont 70 services pédiatriques. La thérapie du clown, une nouvelle médecine douce pour enfants malades. Et ce soir, dans Curiosité, nous vous proposons de découvrir non pas le parcours, mais les parcours de Sarah Gautré et de son double Tina Trompette, médecin du cœur et de la joie depuis 2012, dont 4 ans au CHU de Nantes. Merci d'être avec nous ce soir. Sarah Gautré, rire à l'hôpital, c'est vital. C'est l'une des devises de l'association Le Rire Médecin. Une devise qui a également fait sens pour vous et votre envie de rejoindre l'association.
Oui, c'est vrai, tout à fait. Quelle présentation. Oui, ça a fait sens, effectivement. Apporter de la joie dans un endroit où on ne s'y attend pas forcément. C'était important pour moi. Et puis, ça fait sortir des salles. Ça fait sortir des endroits où on nous attend comme comédiens. Et ça, c'est génial de pouvoir aller à la rencontre d'un public qui n'est pas celui
dont vous avez l'habitude.
Exactement.
À quel moment vous découvrez l'association ?
Alors moi, c'est une histoire familiale, en fait, parce que mon papa était clown.
Ah.
Et il était aussi formateur, pédagogue de clown, un très grand pédagogue. Et il se trouve qu'il a croisé la route du Rire Médecin à ses débuts. Il a pas mal bossé avec eux, il a transmis. Donc j'en ai entendu un peu parler comme ça, pointillé de temps en temps. Puis un jour, il a offert le livre des 20 ans à Noël, à ma tante. Et là, je lis le bouquin, je lis La vie de Caroline. Mmh. Et je me dis, waouh, c'est incroyable, c'est incroyable.
Vous l'avez rencontré ?
Caroline, oui, Simon, ah bah c'est la directrice, oui, c'est la fondatrice.
C'est toujours la directrice.
Elle est fondatrice, elle n'est plus directrice artistique. Il y a quelqu'un de super qui s'appelle Pauline Réan qui la remplace. Mais Caroline est toujours elle est toujours par là, et puis elle est fondatrice, et puis c'est une super ambassadrice. Donc voilà, donc effectivement, je la connais, c'est elle qui m'a auditionnée au démarrage.
Ah oui, il y a...
Elle a commencé par me dire « t'as pas fait assez de clown, reviens nous voir dans quelques années. »
Manque d'expérience.
Mais on va quand même se faire un entretien d'embauche. Alors je fais l'entretien, ça se passe hyper bien, on parle de la famille, rien à voir en fait. Comme elle connaissait mon père, elle me dit « oh bah tu vas me parler de ta mère ?» Alors on parle. Ça se passe hyper bien, puis elle me dit « bon ben on se rappelle, tu m'envoies des messages quand tu joues. » Et puis elle me rappelle le soir en disant « écoute, viens à l'audition, mais je t'embaucherai pas, j'ai pas de place, il y a déjà trop de monde. » Je me pointe à l'audition quelques semaines après, je la croise le matin, elle me dit « non, c'est sûr, je te prendrai pas. » Et puis le soir, elle me rappelle vers 22h, et là elle me dit « Sarah, tiens-toi bien, c'est ok, c'est bon, tu rentres dans la compagnie. »
Ah, c'est une belle histoire.
Ouais, c'est une super histoire.
Parce qu'elle commençait plutôt...
Elle commençait sympathiquement, mais je m'étais dit « bah j'ai le temps, je vais retourner me former, et puis je reviendrai plus tard. »
C'est vrai que ça pouvait être un
et
peu...
Et en fait, voilà, j'ai été un peu lancée dans le grand bain comme ça, et c'était en 2012.
2012. Et comment se sont passées vos premières années au sein de l'association? Vous avez commencé à Paris, dans les hôpitaux de Paris.
Oui, j'étais parisienne, hein, voilà, tout le monde n'est pas parfait. J'étais parisienne à l'époque, j'ai commencé à la PHP, effectivement. J'ai fait pas mal de services, c'est ça qui est un peu fou à Paris, c'est qu'on intervient dans beaucoup d'hôpitaux. Donc on se trimballe avec notre petite valise, notre clown à l'intérieur, et on change de service, on joue avec des partenaires différents, ce qui est tout à fait la même chose à Nantes, c'est simplement on est toujours au CHU, au service de pédiatrie du CHU.
Alors vous dites que être clown en soi, ça s'apprend, vous avez appris à devenir clown au sein de cette association. On pourrait penser que c'est simple de faire n'importe quoi, mais en fait c'est pas...
En fait c'est un métier. Hein.
C'est vraiment un métier.
Et puis c'est surtout, ouais, ça s'invente pas.
Ouais.
Faire rire, c'est sûrement une des choses les plus difficiles sur Terre. Donc ça ne s'invente pas et on est tous des comédiens professionnels.
Ouais.
On arrive tous en fait avec un gros bagage de clown dans la compagnie. C'est vraiment quelque chose qui est demandé. C'est important parce qu'il ne faut pas être en situation de fragilité dans les chambres. La situation est déjà fragile. Parfois, les vies sont sur un fil. Y a des traumatismes. Les familles peuvent être en état de choc. Enfin, nous, on se doit d'être ancrés à notre place, solides. Et c'est pour ça que c'est important d'arriver avec un personnage déjà bien existant.
Et comment on s'adapte à ce public-là, aux enfants particulièrement en soins hospitaliers? Est-ce qu'on s'adapte, on adapte son approche à chaque petit enfant ou il y a une grande liberté?
Bah, les deux, en fait, c'est ça, exactement. On s'adapte tout le temps. Mmh. C'est vraiment l'idée d'offrir un moment particulier, un spectacle adapté à chaque enfant, à chaque moment, dans l'instant présent. On est en improvisation, on est toujours en duo. On joue jamais seul, on est vraiment toujours en duo du matin jusqu'au soir. Et attends, la question c'était donc...
Comment on s'adapte à chaque enfant? Est-ce qu'il y a une grande liberté derrière?
Donc oui, c'est ça, il y a une grande liberté. Ce qui est important, c'est d'être ensemble, puisqu'on est en duo, de bien s'écouter, et puis d'écouter l'enfant, parce qu'il va réagir, ou pas. Mais ne pas réagir, c'est aussi une réaction. Donc, on s'adapte à ça. Si un enfant est, par exemple, un peu craintif ou qu'on sent qu'il n'a pas du tout envie qu'on sollicite, on va jouer en jeu indirect. C'est-à-dire qu'on va jouer avec le partenaire. On va inventer une histoire qui fait qu'on ne demande pas forcément à l'enfant d'intervenir. Et comme ça, il peut intervenir quand il a envie, quand il le sent. Il peut ne jamais intervenir. Des fois, on sort d'une chambre, on ne sait pas trop ce qu'on va laisser.
Mais parfois, c'est une aide cruciale pour le personnel soignant, parce que certains enfants ne communiquent peu ou pas avec le personnel, et peut-être que votre approche permet d'ouvrir des fenêtres et permettre à ces enfants-là de parler, alors pas à nouveau, mais de rétablir un dialogue. Comment on crée comment on arrive à faire cette
Alors, on n'est pas des magiciens à chaque fois, mais c'est vrai qu'il y a des moments où c'est un peu fou. Il n'y a pas de méthode, il n'y a pas de recette. En fait, nous, on vient avec... C'est notre job. On vient faire rigoler, on vient raconter des histoires. En fait, j'aime bien dire que des fois, l'enfant est dans sa chambre, il ne va plus à l'école, il ne voit pas forcément ses copains. J'aime bien dire, on apporte à l'hôpital un petit bout de la cour de récré.
Ouais.
Et c'est ça qui fait que si l'enfant se sent bien avec nous, il va oublier le contexte, il va oublier les difficultés, il va oublier parfois sa douleur, l'espace de quelques secondes ou quelques minutes, et là il va se détendre, et il va peut-être sortir la voix pour jouer avec nous. Il arrive aussi qu'un enfant se mette à manger après nous avoir vus, alors qu'il mangeait pas depuis quelques jours. Je ne sais pas ce qui se passe exactement, mais je pense qu'il y a quelque chose de la détente.
Est-ce qu'il y a un lien qui se construit aussi, parce que vous les voyez plusieurs fois dans l'année, ces mêmes enfants, donc vous construisez un lien peut-être plus fort avec eux?
Oui, ça peut. On est 11 comédiens clowns à Nantes, au CHU. Mm-hmm. On intervient... en fait, on est là 4 jours par semaine dans les services. Et par exemple, le service de pédiatrie générale, on va y aller le mardi et le jeudi. Et ça, c'est un contrat sur l'année entière. On vient les mardis et jeudis, donc... C'est sûr qu'un enfant qui va rester plusieurs semaines en pédiatrie générale ou en oncologie ou en chirurgie, il va pouvoir tisser des liens avec nous. Et il arrive qu'il y ait des enfants qui demandent, en hôpital de jour par exemple, qui viennent pour faire des piqûres, des suivis, ils peuvent demander à venir le jour des clowns parce qu'ils sont attachés à nous, parce qu'ils savent aussi qu'ils vont être plus détendus, penser à autre chose pendant la piqûre. C'est assez fou quand on crée ce lien avec les enfants.
Qu'est-ce qu'ils vous apprennent à vous, ces enfants-là? Est-ce que vous apprenez des choses d'eux?
Bien sûr, ils sont d'un courage exemplaire la plupart du temps. Chaque histoire est un peu particulière, mais ils nous apprennent... ils nous apprennent... C'est une question difficile.
Difficile. Mais vous retenez des choses d'eux?
Bah, je trouve qu'ils remettent la vie au bon endroit, c'est-à-dire que, voilà, on des fois, t'arrives, tu te plains, tu vis des trucs un peu... Ouais, ils nous apprennent à relativiser. Ils sont extrêmement courageux. Et puis voilà, il y a des choses... Il y a des choses un peu chiantes dans la vie, mais ouais. Pas obligé d'en faire une montagne, quoi.
Ouais. Mais rire comme thérapie, vous y croyez?
Alors, le mot thérapie, je me méfie toujours.
Oui.
Parce qu'on n'est pas des médecins, on n'est pas des soignants, on est vraiment des clowns. Il y a des choses positives dans le soin qui arrivent grâce à nous, mais nous, on vient d'abord faire notre job de comédien, de clown. Voilà, je dirais que c'est du spectacle avant de la thérapie.
Sarah Gautret, notre invitée dans Curiosité, comédienne et clown pour le rire médecin. Restez avec nous, nous allons faire un détour musical en écoutant un peu de house music et le morceau Shoreditch du DJ new-yorkais Vardanian. A tout de suite dans Curiosité.
Curiosité, portrait de vie.
Nous sommes toujours en compagnie de Sarah Gautret, comédienne et clown pour l'association Le Rire Médecin. Alors il faut rappeler quand même que Le Rire Médecin est une association qui vit sur les dons de chaque personne. Et vous, alors vous êtes intermittent du spectacle, vous êtes payé par l'association du coup pour...
Oui, je suis salariée, on a des journées payées en cachet, comme une journée de spectacle, comme si j'allais jouer en salle.
Basée sur les dons.
Oui, exactement. Donc c'est une association qui fonctionne sur les dons. Donc si vous voulez donner, c'est possible. Il y a toutes les infos sur lerirmedecin.org. Excusez-moi. Ouais.
On le remettra ça pour nos auditeurs et nos auditrices.
Là, c'est la campagne de collecte de fin d'année.
D'accord.
Donc c'est le moment ou jamais.
Très bien. Voilà. Quelles sont les journées d'un clown? Comment fonctionnent de manière concrète les journées d'un clown dans un hôpital?
Alors concrètement, on arrive le matin vers 9h moins le quart, 9h. On se retrouve dans le vestiaire avec son partenaire, le temps de prendre contact, éventuellement boire un petit café. Et puis on va faire les transmissions dans les services. Donc ça, c'est aux alentours de 9h ou 9h30 selon le service. On a des informations données par les soignants sur les enfants. Parce que c'est important de savoir à qui on s'adresse, dans quel état est l'enfant ce jour-là, quelle est sa pathologie. C'est une manière d'adapter au mieux notre jeu aussi pour ne pas faire de bourde, de ne pas faire de bêtises. Et puis pas forcément déjà des fois le... Si un enfant vient d'avoir une ponction lombaire, par exemple, il ne faut pas qu'il bouge. Donc c'est bien qu'on le sache. Si un enfant est fatigué, c'est bien qu'on puisse le savoir pour pas le solliciter
trop.
Ouais, ou alors le solliciter de la bonne manière.
Ouais. Vous avez inventé ce personnage, Tina Trompette. Quel est l'univers de ce personnage et comment vous le mettez en place une fois sur place ?
Je disais tout à l'heure, le clown est dans la valise, donc on a notre costume en fait. Ouais. On a notre costume, notre nez rouge. Le personnage, il évolue. Hein, le clown, ça part vraiment de chaque personne. C'est quelque chose de très particulier. On joue avec ce qu'on est, avec nos défauts. Parfois, on est un peu la partie cachée de nous-mêmes, ou des choses qu'on a réussi à... par exemple, la mauvaise foi. J'espère que je ne suis pas trop de mauvaise foi dans la vie. En tout cas, je l'exploite. J'aime bien l'exploiter en clown. Voilà, on travaille un peu sur tout ça. Et donc, on s'habille le matin, on se met en costume. On
directement.
Ah oui, je pense après les transmissions.
Oui.
Non, après les transmissions.
On n'arrive pas en clown.
Non. On se maquille et puis on s'échauffe un peu dans le vestiaire. On dit voilà, de trois conneries ou des choses très intelligentes, mais qui nous réveillent, qui réveillent le personnage. L'idée, c'est d'être vraiment en contact avec son partenaire pour jouer le mieux possible ensemble. Et puis là, on part souvent en parade avec de la musique. Et on part dans un service et puis on y passe la matinée. On va aller de chambre en chambre. Il arrive qu'on joue aussi avec les enfants dans les couloirs ou les salles de jeu. Il arrive aussi beaucoup qu'on joue avec les parents ou les soignants dans d'autres espaces comme les ascenseurs, les salles d'attente. Et puis on rentre, c'est ça, hein, c'est la journée, je continue.
Oui, la journée, bien sûr.
On retourne au vestiaire pour déjeuner.
Ouais.
On se rhabille en civil, on va déjeuner. Soit on déjeune dans les locaux, soit on va au self du CHU.
Mmh.
Et puis on revient, après, on se rhabille.
Ça, c'est sur toute une journée.
Vous faites toute une journée. On se rhabille l'après-midi, on retourne en général dans un autre service, on voit d'autres enfants, et ça va finir vers 16h environ.
Combien de fois par mois ?
Alors, à Nantes, on joue 3-4 fois par mois environ.
D'accord.
Chacun. Donc ça tourne. Voilà. Donc, du coup, les enfants, ils voient un peu tous les clowns de l'équipe.
D'où vient Tina Turner ?
Tina Turner.
Tina Trompette.
Elle vient un peu de Tina Turner.
C'est vrai ?
C'est vraiment. Bah, ça se voit pas forcément, mais c'est une inspiration.
Tina Trompette. Pour.
Elle a l'énergie. Elle aimerait avoir l'énergie de Tina Turner. Elle aimerait chanter comme Tina Turner. Je ne sais pas si elle y arrive. Depuis peu, j'ai une coupe de cheveux afro,
ouais.
Métisse. C'est nouveau pour moi à l'hôpital et même, c'est nouveau que mon personnage ait ça. Mais j'adore. Il y a un truc un peu. Avant, j'avais un casque de water polo. Ça marchait super bien aussi parce que les enfants, ils aimaient. C'est quoi ? Mais c'est un casque de piscine. Mais c'est. Ah, mais de toute façon, t'entends rien. T'as un truc sur les oreilles. Bon, là, c'est différent. J'assume mes cheveux. Mais c'est génial parce que les gens se demandent si c'est des vrais, des faux. Enfin, ça fait plein de discussions.
Faire rire dans un hôpital, c'est aussi un effort pour vous, puisque c'est alors un effort dans le sens, c'est quand même un lieu qui est différent, comme vous le disiez, d'un spectacle normal, d'une salle de spectacle comme ça. Comment vous êtes affecté aussi par ce travail-là ? Est-ce que voir ces enfants malades aussi, il faut se forcer aussi à faire rire quand on est nous-mêmes affecté par ce que l'on voit ?
Alors, forcer à faire rire,
rire. Essayer de créer le rire.
En tout cas, il y a des moments où on est déstabilisé par ce qui se passe. Évidemment, la maladie reprend le dessus lors d'une transmission. La réalité, quelque part, reprend le dessus. Mais une fois qu'on a enfilé notre costume et notre nez rouge, c'est Tina Trompette. J'allais dire Tina Turner, c'est mal. C'est Tina Trompette qui est là et elle n'a pas la même réalité que Sarah.
Oui.
Et du coup, on y va, on fait le boulot. C'est après, des fois, quand on a enlevé le costume, l'idée, c'est de laisser les choses avec le costume, les choses qu'on a vécues dans la valise ou au vestiaire. On fait des petites transmissions entre nous aussi en fin de journée. Ça peut permettre aussi de débriefer des situations. Moi, je sais que ça m'aide beaucoup. Ça m'aide à ne pas rentrer avec tout ça chez moi.
Ouais.
Mais l'attachement, il existe. Parfois, on ne sait pas pourquoi. Il y a une situation, un enfant qui va nous toucher plus que d'autres. Et là, on gère chacun un peu. On a chacun nos méthodes.
Vous faites aussi partie d'un autre projet au sein de l'association, c'est le projet Shabada. Des ouais. interventions auprès de nourrissons, auprès de l'enfance en danger. Qu'est-ce qui change de la première mission que vous avez de base?
Alors là, on n'a plus de nez rouge. C'est plus Tina Trompette. Mmh. On est en personnage décalé. On continue à travailler avec ce qu'on est, c'est-à-dire et ce qu'on sait faire, notre humour. Mais on fait beaucoup de. Enfin, on fait que de la musique. C'est un programme basé sur la musique. Et on va en maternité. On va avoir des tout petits bébés, des nourrissons qui viennent de naître, parfois quelques heures. Et en fait, on intervient dans des chambres où il y a une situation qui peut générer de l'anxiété ou du rejet chez la maman ou chez le papa ou chez les parents. C'est souvent lié à des grossesses à risque ou des bébés nécessitant des soins spécifiques ou familles vivant dans la précarité, maman isolée, migrante, des mineurs. C'est un service très particulier. Là, on va plus sur ordonnance des soignants.
Oui.
Et l'après-midi, en Shabada, le matin, on voit les enfants, les bébés et les mamans de la maternité. Et l'après-midi, on suit des enfants qui sont suivis par l'unité d'accueil de l'enfance en danger. Donc, c'est des enfants souvent qui sont placés sous protection judiciaire. Et l'idée, c'est que nous, on les voit toutes les semaines. Ce programme, c'est une fois par semaine, tous les mercredis. On devient un peu un des référents qui vont pouvoir suivre à l'hôpital durant leur séjour.
Très beau projet aussi. Et vous êtes aussi sur plein d'autres terrains, outre que le Rire Médecin. On va en parler très rapidement.
En fait, juste, c'était peut-être pas clair, c'est Shabada fait partie du Rire Médecin.
Oui, du Rire Médecin. Mais vous faites partie, vous êtes une comédienne tout terrain. Alors.
Merci vous... Enzo.
Ouais. Enfin, en tout cas, vous êtes aussi très rapidement pour parler de ce au sein du théâtre régional des Pays de la Loire, une troupe un peu particulière qui défend un théâtre techniquement pauvre. C'est votre ambition? Vous aimez ce théâtre un peu artisanal?
Ouais, j'adore. Ouais, évidemment. En fait, je travaille avec Camille de la Guillonnière, qui est directeur du TRPL depuis 2021. Mmh. On s'est tous rencontrés à Paris en formation à l'école Claude Mathieu. Petit clin d'œil à cette formation et à Claude Mathieu s'il nous écoute depuis Paris 18e. Oui, c'est, en tout cas, il y a quelque chose du théâtre populaire. Les spectacles qu'on défend, c'est en tournée des villages. Il y a aussi une tournée d'hiver, mais vraiment le gros du travail, c'est l'été, c'est du théâtre de très tôt. On débarque dans un village où il n'y a pas forcément de spectacle à cet endroit-là. On débarque avec des tréteaux, on monte, on fait la buvette, on fait même des gâteaux pour la buvette. On joue, on démonte. Et il y a quelque chose effectivement d'artisanal et de
populaire.
Populaire, artisanal et sincère.
C'est le théâtre que vous voulez vous retransmettre?
J'aime ce théâtre, ouais, c'est sûr. J'aime d'autres théâtres aussi, mais cette aventure est très riche.
Merci, Sarah Gautré, d'avoir été nous dans Curiosité pour nous avoir partagé ce beau métier essentiel, inattendu, de clown pour le Rire Médecin.
Merci à vous.
Merci Sarah et merci Enzo. Évidemment, on avait plein d'autres questions, mais c'était le temps qui presse. On laisse tout de suite la place à Victor avec sa chronique du jour qui nous fait rire comme à chaque fois.
Curiosité. Les chroniques de la rédaction.
Bonsoir, nous sommes le 11 décembre et savez-vous ce qu'il se passe le 11 décembre?
Le 11 décembre, non, quoi, non, je sais pas.
Une journée mondiale peut-être? Quelqu'un a une petite idée?
Une journée mondiale...
Une journée mondiale, si je vous dis les Alpes?
Les Alpes, l'eau du coup, le voyage.
Presque, ce sont les journées mondiales de la montagne. Et c'est chouette parce qu'en Loire-Atlantique, on a la chance d'être plutôt bien lotis en termes de sommet, il faut le dire. Le point le plus haut du département est, avec ses 119 mètres d'altitude, la colline de la Bretèche. Et je vous ai fait un petit road trip fun, découverte un peu délire. Mais avant tous ces conseils touristiques délivrés par une personne enfant de la montagne, et c'est peu dire que j'ai grandi à Chamonix, attends, t'es pas censé être un Parisien de Nantes et n'ayant jamais été plus haut que la Tour Bretagne. C'est un peu vite résumé. Voici donc mes 5 indispensables pour gravir la colline de Fercé. Numéro 1. Une assurance vie. Avec un hélicoptère, prêt à vous évacuer vers l'hôpital le plus proche, une chute dans une crevasse est très vite arrivée. C'est dangereux, 119 mètres quand même, hein. Enfin on oublie souvent de le préciser. Numéro 2. Une jambe de secours, si malencontreusement l'un des alligators sauvages qui garde le sommet se met en tête que vous êtes son 4 heures. Numéro 3. Et celui-ci est vital. Une carte afin de vous repérer entre le col de la Grande Bigouden et celui du Petit Fox Terrier, qui sont les deux voies de passage vers le sommet, avec chacune un refuge en cas de terrible tempête de neige de catégorie 5 vous ensevelissant jusqu'à la nuque, vous faisant prisonnier de la terrible poudreuse ligérienne qui en a tué plus d'un. Beaucoup d'alpinistes sont morts sur cette ascension redoutée. Les meilleurs, Mike Horn par exemple, ont refusé de s'y rendre, soi-disant pour un problème de passeport vers la France, mais en réalité, voyant les, je le rappelle, 119 mètres du mont, que dis-je, du sommet de la bretèche. Il a préféré abandonner lâchement et retourner combattre des ours en Alaska, activité beaucoup plus classique. Numéro 4. N'hésitez pas à vous adjoindre de l'aide d'un Sherpa et de ses lamas, comme dans Tintin au Tibet, effectivement. Ceux-ci pourront aisément transporter votre matériel vers le haut, comme par exemple une bouteille de shampoing ou de champagne ou de ce que vous voulez, pour fêter l'arrivée si vous y parvenez, ou adoucir un peu votre agonie en cas de problème. Numéro 5 et final, prenez un appareil photo 4K UHD Ultra 16 millions de pixels afin de poster votre meilleur selfie sur Instagram avec comme légende « Croyez en vos rêves, les loulous, emoji cœur et emoji biceps, la délicatesse et la testostérone. » Et oui, c'est bien, c'est le bon et la brute. Ou bien encore, merci à NordVPN pour avoir sponsorisé cette ascension. Si vous êtes un ou une youtubeuse française de plus de 500 000 abonnés, vous ne pouvez pas échapper à la sponsor NordVPN. Alors, quand vous y arrivez, devenez ermite au sommet de cette colline et devenez le compagnon de jeu des petits crocs mignons qui gardent ce territoire dont le sommet est réservé à l'élite des meilleurs.
Eh ben dis donc, on aura appris pas mal de choses en tout cas. Il suffit pas simplement de faire un post avec une belle photo, mais effectivement, il faut quand même malgré tout être équipé pour pour gravir du coup le mont. On est bientôt du coup à la fin, effectivement. C'est passé très vite. Mais c'est impressionnant quand même, on se dit à chaque fois.
Et c'est l'avant-dernière de 2023.
Et c'est l'avant-dernière de 2023, effectivement. Enfin, on vous prépare du coup une édition spéciale pour la semaine prochaine. Oui, effectivement, donc comme on vous disait, du coup, c'est bientôt la fin. Merci en tout cas d'avoir été à notre écoute. On était ravis aujourd'hui d'accueillir du coup Sarah sur le plateau. Merci encore. Merci du coup pour tous les différents sujets qu'on a eu aujourd'hui. Alors je rappelle, on a écouté l'interview avec Anna Ouassim grâce à Yelena qui était directement sur les rencontres trans musicales à Rennes. Ensuite, nous avons eu du coup la pause cadeau avec Esteban qui donc restait toujours suivez-nous sur les réseaux sociaux. C'est important, comme ça vous pourrez gagner des cadeaux grâce à lui. Ensuite, bien évidemment, nous avons eu le portrait de vie avec l'interview de Sarah, le rire médecin. Et nous avons eu Victor qui nous a appris que c'était la journée mondiale de la montagne, sans qui on n'aurait pas su. Sachez que vous pouvez retrouver tous les podcasts directement enregistrés à la fin des émissions directement sur prune.net. Suivez-nous sur les réseaux et on se retrouve lundi du coup évidemment même jour, même heure, restez à l'antenne et à 19h du coup c'est retour aux sources. Bisous bisous et à bientôt.
Tchuss
au revoir.
Curiosité du lundi au vendredi de 17h30 à 18h30 et en podcast sur prune.net.